RTL, il est 13h01.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole
avec Éric Brunet sur RTL.
Aujourd'hui, l'Allemagne a légalisé le cannabis. Pensez-vous que ce soit une bonne idée pour la France, pour les consommateurs, mais aussi et surtout pour lutter contre le trafic? Thomas fait le 3210. Mon cher Thomas, bonjour.
Bonjour Éric.
Pour ou contre cette légalisation en France, par exemple?
Alors, je suis à la fois contre et pour. C'est un sujet bien compliqué à trancher, je trouve.
Ouh là là, vous allez me préparer vos arguments. Je vous reprends dans une seconde. D'accord, Thomas?
Tout fait, Éric.
Très bien, merci. Restez là. Céline Landreau, bonjour, vous êtes avec nous depuis midi, d'ailleurs je ne sais pas pourquoi je vous dis bonjour.
Parce qu'on aime bien se dire bonjour, c'est toujours agréable, la politesse.
Alors bonjour, Céline, le rappel des titres.
Plus d'une centaine de gendarmes et experts mobilisés dans le Auvernais, village bouclé au surlendemain de la découverte du crâne du petit Émile, retrouvé par une promeneuse ce samedi. De nouvelles fouilles sont donc en cours pour tenter de retrouver le reste de la dépouille de ce petit garçon de 2 ans et demi, ses vêtements ou tout autre indice permettant d'expliquer sa disparition. C'était le 8 juillet dernier. Plusieurs changements en ce 1er avril. La vignette verte disparaît de vos pare-prises. Désormais, les forces de l'ordre peuvent accéder à un fichier dématérialisé pour savoir si le véhicule que vous conduisez est bien assuré. Et puis, des prestations sociales sont revalorisées. RSA, prime d'activité ou encore allocation aux adultes handicapés augmentent de 4,6% et cela en raison de l'inflation. La décrue de la Vienne a commencé à Chinon, en Indre-et-Loire, département toujours en vigilance rouge. On vous le rappelle, au risque de crue, soyez prudents. Dans 12 départements sont par ailleurs en alerte orange. La météo, justement, Louis Baudin, avec encore de la pluie attendue par endroit cet après-midi.
Oui, exactement, quasiment partout, sous forme d'averses, de l'instabilité. D'ailleurs, les orages, là, ça recommence, là, du côté du Médoc, sur la région bordelaise. Voilà les premiers orages de la journée qui, cet après-midi, vont se multiplier quasiment sur les trois quarts nord de la France, avec donc cette succession, on connaît ça depuis quelques jours, des éclaircies, des passages nuageux, des averses sous forme de pluie, parfois accompagnées d'orages, de la neige sur les Vosges, Jura, les Alpes à partir de 1000 ou 1200 mètres. Puis une seule exception dans ce temps instable, c'est le littoral méditerranéen où là, ça devrait rester un petit peu plus ensoleillé parce qu'il y aura aussi des averses sur la Corse avec du vent d'ailleurs, 100 km/h sur le nord et le sud de l'île, du vent près des côtes de la Manche avec là aussi jusqu'à 70-80 km/h, puis des températures, pas de saison, 13 à 15 degrés, pas plus dans la moitié nord, 15 à 18 degrés dans le sud et 19 quand même du côté de la Corse, du Bastia.
Demain?
Demain, pareil. Alors, sauf dans le sud. La moitié sud devrait connaître une belle amélioration. Là, ça sentira un peu le printemps. Mais dans la moitié nord, encore des passages nuageux et des averses, surtout en cours d'après-midi. Puis côté température, ça aura du mal à grimper. Alors, on franchira les 20 degrés dans la moitié sud, mais on restera bloqué sous les 15 degrés dans la moitié nord.
Bien, on reste couvert. Donc, merci beaucoup, Louis Baudin.
Tu sais, pour venir nous dire des choses comme ça, Louis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi?
Oui, c'est vrai.
Vous venez rester en week-end. Et
peut-être
voilà.
Venir un jour sur deux.
Oui, voilà, un jour sur deux. Merci, Louis Baudin. Et à demain, à midi, Céline Landreau.
À demain.
Les auditeurs ont la parole avec Éric Brunet sur RTL.
Bah oui les amis, l'Allemagne a légalisé aujourd'hui, là ce matin, l'utilisation de cannabis sur tout son territoire, l'Allemagne. Et nous en France, ben on a plus de 5 millions d'utilisateurs réguliers de cannabis, dont 1,3 million qui en prennent plus de 10 fois par mois quand même. Donc, et 850 000, tiens, près d'un million de Français en prennent tous les jours. Thomas, vous m'avez dit tout à l'heure, au 32-10, là, il y a une poignée de secondes, vous m'avez dit que vous étiez à la fois pour et contre la légalisation du cannabis en France. Il va falloir vous expliquer et choisir votre camp, Thomas, parce qu'on peut pas être pour et contre.
Alors, si, justement. Alors, moi, j'ai 38 ans, je suis chargé de relations entreprises dans des écoles en alternance, je vis à Lyon, et j'ai été consommateur de cannabis et consommateur de cocaïne. La consommation de cocaïne a commencé à l'adolescence, vers 15-16 ans. Et ma consommation de cocaïne plutôt vers 25 ans. Donc je suis quand même plutôt au courant des effets que ça peut avoir sur la santé, de comment le business fonctionne, et c'est pour ça aussi que j'avais déjà appelé pour justement un peu donner la réalité de ce qui se passe, parce que des fois on se rend pas compte de la facilité d'accès aux produits.
Il paraît que maintenant on vous livre le haschich, le cannabis, on vous livre ça comme si c'était une prestation fréquente du quotidien, quoi, comme quand on se fait livrer une pizza à la maison.
C'est de l'ubérisation de la drogue, exactement. Quand j'avais 15-16 ans, il fallait que j'aille dans des endroits, je ne trouvais pas forcément, je devais y retourner. Aujourd'hui, il y a encore ce mode de fonctionnement, mais ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, vous allez sur certains sites, vous trouvez un numéro de portable en 25-35 minutes, vous pouvez avoir n'importe quel produit.
Oui, et puis le gars, votre dealer, vous fait des petits SMS pour vous dire presque, il y a une promotion la semaine prochaine. Enfin,
Eric, je vais vous dire, vous avez les promotions d'été, les promotions de Noël, vous avez le Black Friday, vous avez Halloween.
Vous me faites une blague là, Thomas, ou c'est vrai?
Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Moi, même quand j'achetais un gramme de cocaïne, on m'offrait parfois une barrette de shit, on m'offrait parfois des extasies. Des fois, je disais, une fois que j'en avais acheté plusieurs, je gardais les extasies que je ne consommais pas, je les redonnais au dealer qui m'arrangeait, qui me donnait plus de cocaïne. Non, c'est en 25 minutes, je peux vous commander ce que vous voulez.
Bon, Thomas, juste une chose. Moi, je suis d'accord, on en parle avec vous de façon débridée, très bien. Mais très bien. Les médecins, qu'ils soient de gauche, de droite, jeune, vieux, grand, petit, gros ou maigre, tous les médecins vous disent, c'est terrible, le cannabis, hein, terrible pour les adolescents qui ont le cerveau qui est en évolution, terrible même pour les jeunes adultes et personnes de 20 ans, c'est dévastateur, fumette, juste la fumette, hein, je parle même pas des drogues dures.
Bien sûr, je suis entièrement d'accord avec vous. Moi, ça m'a fait pas avoir forcément de bons résultats scolaires. Parce que mon père, j'ai encore cette discussion aujourd'hui avec mon père, quand on fume du cannabis, c'est potentiellement la porte ouverte à d'autres consommations plus tard. Mais quand j'avais 16 ans, je n'y croyais pas. Et au final, je suis tombé, je suis allé en cure de désintoxication pour la cocaïne. J'ai été dans des centres de XAPA, des centres.
Mais alors Thomas, ne me dites pas que vous êtes pour la légalisation du cannabis en France alors,
et
Thomas.
Eh ben si, il y a des arguments. Bah alors je vous les donne je commence par le pour. Ça ferait plus de revenus déjà à l'État. Ça c'est clair. C'est une manne financière énorme. Ça permettrait autre chose, qui est important, de contrôler la qualité des produits, que ça soit du cannabis en fleurs ou en résine. Ça permettrait de contrôler le taux, parce qu'aujourd'hui, vous avez des produits qui sont hybrides, qui sont très puissants. Et c'est pas du tout la même herbe que fumaient les gens.
Attendez, Thomas. Alors là, très bien. Ok, je vous garde. Il y a une minute de pub. Je vous prends juste après parce que j'ai des arguments à vous envoyer au visage. Ça va charcler. Parce que je suis pas tout à fait d'accord avec vous là-dessus. Restez avec moi tout de suite.
Envoyez-nous vos messages sur l'application RTL ou appelez-nous au 3210. 50 centimes la minute.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole
avec Éric Brunet sur RTL.
Avant de reprendre Thomas, avec lequel je ne suis pas d'accord sur la légalisation du cannabis, d'ailleurs, Victor vient d'entrer dans le studio. Bonjour Victor, c'est vous qui officiez aujourd'hui. Lisa Marie n'est pas avec nous aujourd'hui. Victor, les messages qu'on a reçus quand même en ce 1er avril 2024.
Bonjour Eric, bonjour à tous. Ben écoutez, 1er avril, c'est l'occasion de montrer un petit peu la face cachée du répondeur. On le dit souvent, vous êtes nombreux à nous appeler. Et parfois, eh bien, nous sommes un petit peu désemparés.
Bon, dis c'est maman. Est-ce que tu pourrais me donner un coup de fil? J'ai des renseignements à te demander. J'ai fait faire des courses il y a une semaine pour moi et puis je ne sais pas si il faut que je te parle. Hein, tout va bien, t'inquiète pas.
Bon Guy, maman va bien, tout va bien, sauf qu'elle n'a pas téléphoné à Guy. Elle a laissé un message à RTL, mais peut-être que Guy écoute RTL, donc tout va bien. Guy, maman va bien.
Oui, on ne sait pas comment elle est arrivée, cette dame-ci, mais en tout cas, on vous écoute, vous en avez la preuve. Un autre message, Damien?
Oui, bonjour, je suis à la recherche d'une caravane, 3-4 places d'occasion et en bon état. Merci.
Non, mais Victor, c'est vous qui me faites un 1er avril.
Pas du tout. On a beaucoup de messages et on les écoute tous. Vous en avez la preuve.
Vous m'assurez les yeux que c'est des vrais messages qu'on nous laisse.
De vrais messages, de vrais auditeurs qui nous ont appelés sur le 3210 et qui ont laissé un message sur le répondeur.
J'adore. Vous en avez d'autres?
Aujourd'hui, on va peut-être en rester là. Bon, écoutez, vous le voyez, bon, on n'a pas cette caravane. On n'est pas le bon coin eBay, la centrale des particulières. Et RTL n'a rien à vous vendre. Mais on vous propose de vous écouter chaque jour dans Les Auditeurs ont la parole. Aujourd'hui, au programme Les Abris de Jardin, saviez-vous que vous êtes redevable d'une taxe d'aménagement si votre abri de jardin fait plus de 5 mètres carrés? Bercy utilise même des images satellites pour traquer les fraudeurs. On parlera également de la fin de la vignette verte sur nos pare-brises. Lutter contre le défaut d'assurance avec un fichier centralisé, c'est l'objectif. 800 000 automobilistes roulent sans assurance. Et vous avez déjà eu un accident avec quelqu'un qui était sans assurance? Appelez-nous au 3210. Enzo, Margot et Azad vous attendent. Mais pour l'instant, les auditeurs ont la parole.
Bien, on est toujours sur le cannabis, là, Thomas est avec nous. Donc vous, Thomas, vous me disiez, il faut légaliser le cannabis en France parce que ça ferait... Le premier argument que vous avez déployé, c'est que ça fera de l'argent à l'État, c'est ça? Et le deuxième argument, vous me disiez ?
Oui,
on contrôlera la qualité de la drogue qui sera vendue. Sauf que, qu'est-ce qui va se passer ? L'État va dire, on va faire, tiens, tel dosage, il est acceptable. Tiens, ça c'est du bon dosage de cannabis, ça c'est bien, ça va pas détruire les gens, etc. Et tout de suite après, vos fameux dealers, ils vont revenir, ils vont dire, non mais nous on propose du vrai cannabis mieux dosé, plus dosé, plus fort, et le deal va continuer comme avant, comme avant.
C'est vrai, vous avez raison sur ce point-là. Mais globalement, je suis quand même contre. Hein. Déjà, là, je vous ai cité quelques arguments. Je suis contre pour plein de raisons. J'ai peur que déjà, d'un point de vue d'un message aussi de l'État, hein, de santé publique, ça, voilà, c'est un peu contradictoire de dire, allez-y, les portes ouvertes pour la fumette. Hein. C'est
Matisse, bougez pas, Thomas. Tiens, on va voir. Il n'a pas l'air d'être d'accord avec vous. Thomas est à Lyon. Là, on va, je crois, en région parisienne ou à Paris. Bonjour, Matisse.
Bonjour à tous. Merci de m'accueillir.
Quel âge, Matisse ?
Moi, j'ai 28 ans, je suis producteur et passionné de cannabis, du coup, depuis pas mal d'années. Je m'occupe aussi bien des particuliers que des professionnels du CBD. On livre du CBD dans toute la France, etc. Et bon, je suis pas trop d'accord avec vos différents arguments, donc on peut en parler avec plaisir.
Vous produisez du cannabis à fumer, donc vous êtes dealer, vous êtes dans l'illégalité.
Non, dans la légalité, parce que je fais ça à Barcelone.
Ah, vous faites ça à Barcelone, d'accord. Vous produisez... Oui, mais comme vous le vendez en France, ça c'est illégal, on peut le dire. Hein,
Je vends du CBD.
Ah, d'accord. Donc
voilà, le CBD, c'est une molécule qu'il y a dans le cannabis. Donc on appelle ça aussi cannabis.
C'est légal.
Mais concrètement, ce n'est pas une molécule qui défonce.
Ah, dis donc, moi j'ai un copain qui m'a amené des bonbons des États-Unis au CBD. Comme des petits crocodiles mous. Vous savez qu'on achète 3 centimes dans les boulangeries, là, au 10 centimes.
On appelle des edibles.
Oh là, mais j'ai pris ça pendant un repas, je croyais que c'était anodin. J'étais avec 2-3 copains.
Alors, c'était pas du CBD que vous avez dû ingérer, ça devait être d'autres molécules.
Ah, c'était d'autres molécules, parce que c'était des petits bonbons, des molécules, des petits bonbons tout mous. Le lendemain, midi, on riait encore. Franchement.
Ouais. Bon. En fait, il y a pas mal de molécules qui existent dans le cannabis, donc à mon avis, il devait y avoir un petit mélange.
Ouais.
En fait, il y a ce qu'on appelle un effet d'entourage. Une molécule plus une autre molécule est bien plus active qu'une tout seule.
Mais j'ai pas du tout aimé l'idée d'être pris en traître, cela dit. Je vous dis que j'ai ri, mais pas tant que ça, parce que, bon, bref.
Dans tous les cas, il faut être d'accord de consommer quand on consomme quelque chose.
Pourquoi êtes-vous pour, oui, vous avez raison, pourquoi êtes-vous pour la légalisation du cannabis, sachant que je vous l'ai dit, et je sais que vous le savez, c'est pas du tout bon pour un cerveau, un petit cerveau d'adolescent qui est en formation, ou même de jeune adulte. C'est très mauvais métaboliquement pour un jeune. Pourquoi vous
Alors,
êtes pour ?
Sur ce point-là, vous avez totalement raison. Pour moi, je suis pour la légalisation, mais la légalisation bien faite. Dans le sens où je pense qu'il faut légaliser pour une certaine tranche d'âge seulement. Le cerveau se forme jusqu'à 25 ans. Après 25 ans, les lobes frontaux se sont formés. Mais si vous fumez avant cette tranche d'âge-là, c'est très dangereux pour le cerveau, pour la santé mentale, etc. Mais après cette tranche d'âge-là, et on le voit dans les pays comme le Canada ou autres, on n'autorise pas le cannabis.
Oui, donc vous pensez, vous seriez favorable à une loi un petit peu comme celle de l'alcool, quoi. On vend pas d'alcool aux mineurs, donc on peut mettre
même
ça.
Même un peu plus accru, dans le sens où l'alcool est autorisé à partir de 18 ans.
Thomas.
Mais là, pour le coup, ça serait du 21-25 ans, quoi.
Thomas, qu'est-ce que vous pensez de ce que dit Matisse?
Oui, c'est une bonne idée, je suis d'accord. Moi, ça m'a causé des problèmes scolaires, on n'est pas prêt, on ne se connaît pas bien, ça a un vrai impact sur la santé publique. Hein.
Je rejoins Thomas sur pas mal de choses, surtout sur la dose que vous retrouvez dans les cités et dans les télégrammes et les différents liens où vous pouvez trouver du cannabis. Aujourd'hui, on est un peu sur la culture du plus fort, le mieux, et c'est vraiment dangereux justement pour le cerveau. Plus vous avez de THC dans vos produits, plus vous êtes addict. Et en plus de ça, en France, on a l'habitude, la mauvaise habitude, je dirais, de le mélanger au tabac. Et donc forcément, quand on le mélange au tabac, il y a un double effet psychoactif et c'est là où c'est dangereux.
Mathis,
donc pour moi, ce qu'il faudrait faire...
Allez-y. Non, je vous interromps parce que je dis ça pour vous tacler aimablement, mais j'ai un copain qui fume pas mal et il parle comme vous. Je trouve que vous parlez un petit peu mou. Vous parlez un petit peu mou. Vous avez une diction.
C'est vrai.
Non, ce que vous dites est très intelligent. Attention, je suis pas en train de vous dire que vous êtes dévasté par la fumette. Hein, c'est pas du tout mon propos.
Je fume pas de THC, moi.
Ah, vous fumez pas parce que j'ai un copain moi qui fume pas mal, qui est un type intelligent, mais il parle plus comme avant. Il dit, tu vois, Eric, j'ai écouté ton émission à RTL, c'était passionnant. Il a un débit un peu plus lent.
D'accord, mais pour Thomas qui prenait de la cocaïne, il n'a pas l'air d'avoir un débit un peu plus rapide que moi quand même.
Thomas, il m'a l'air vachement... Il m'a l'air très bien, Thomas, lui. Il m'a l'air très, très bien.
Moi, j'ai tout... C'est pas gentil pour Matisse.
Non, non, mais non, Matisse, je le chambre un peu. Mais alors, il vient de me dire, cela dit, qu'il fumait pas de THC.
Mais j'en ai beaucoup fumé, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je fume que du CBD.
Non, mais est-ce que vous n'êtes pas d'accord un peu avec moi que les gens qui fument trop, on va dire, les gens qui fument trop, ils deviennent un petit peu mous du bulbe? Oui ou non, Matisse?
Non, mais bien évidemment.
Mais ça dépend. Moi, je connais des personnes qui fument du cannabis, qui sont hyper speed et qui ont des grandes sociétés aujourd'hui. Et il y a beaucoup de personnes qui ne le disent pas et qui en consomment.
Cela dit, votre argument...
Vous avez un Français Matisse, sur quatre qui fume du cannabis, quand même.
Hein. L'argument que vous auriez dû m'envoyer au visage, Matisse, c'est... Éric Brunet, vous avez bu du vin ce week-end? Ben oui, j'étais... Ben voilà. Il y a des gens qui boivent du vin raisonnablement et vous parlez bien au micro, mais il y a des gens qui en ont trop bu ce week-end et qui parlent mal. C'est toujours aussi la question. Si une personne consomme de façon adulte un psychotrope ou quel qu'il soit, s'il le consomme bien, il n'est pas trop impacté physiquement. Matisse,
impacté physiquement, écoutez, vous avez beaucoup plus de ravages avec l'alcool aujourd'hui qu'avec le cannabis.
Voilà, c'est pour ça que
je voudrais rebondir également. Alors,
attendez, Thomas, vous allez rebondir dans un instant. On se retrouve dans une minute et je sais surtout qu'il y a des messages sur le répondeur pour vous. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
Éric Brunet vous donne la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole
avec Éric Brunet sur RTL.
Moi, j'estime que c'est intolérable. La plante de cannabis est très belle. Moi, je l'adore, cette plante. J'aimerais en avoir dans mon jardin uniquement pour regarder la plante. Elle est très belle. Mais tous ces jeunes qui vont fumer du cannabis, que vont-ils faire? Vont-ils se diriger vers des drogues plus dures? Attention, attention, le danger est là.
Enzo est au standard aujourd'hui, mon cher Enzo, bonjour.
Bonjour Eric, bonjour à tous. Beaucoup de réactions, oui, dites-moi.
Ah oui, voilà, je voulais vous demander si on avait beaucoup de réactions, vous l'avez dit.
J'enchaîne direct, beaucoup de réactions, effectivement, suite à la légalisation du cannabis en Allemagne. Et notre débat du jour, nos fidèles des réseaux sociaux sont plutôt unanimes, contrairement à nos auditeurs du jour. Marie ne croit pas que la légalisation du cannabis règle vraiment le problème de la criminalité. Elle nous dit, dans les pays qui ont légalisé, on semble voir une augmentation de la consommation quotidienne et des impacts sur la santé qui en découlent. Cool. D'ici 15 minutes, nous changerons de sujet, mon cher Eric, nous parlerons de la traque des cabanons de jardin mise en place par Bercy. En effet, désormais, il est obligatoire de les déclarer si leur surface est supérieure à 5 mètres carrés. Chers auditeurs, c'est le moment pour vous d'appeler le 3210 pour réagir. Margot et Azad se tiennent prêts à recevoir vos appels.
Merci, Enzo. Alors là, on va prendre Michel, tiens, Michel. J'ai toujours Thomas et Matisse sous le coude, mais je vais prendre Michel qui est du côté de Fontainebleau et de son joli château. Bonjour Michel.
Oui, bonjour.
J'ai toujours pensé que Fontainebleau, le château de Fontainebleau, était du niveau plus prestigieux même. Allez, aussi prestigieux que celui de Versailles.
Je pense qu'il l'est plus parce que c'est un château qui a 8 siècles de roi de France. Et il est vraiment magnifique.
Allez à Fontainebleau, mesdames, messieurs. Il y a moins de touristes parce que c'est plus éloigné de Paris. C'est un peu plus loin que si on allait à Versailles. Mais je suis d'accord avec vous, c'est
sublime. Oui, c'est très vivant quand même. Il y a quand même beaucoup, un centre-ville qui est magnifique.
Bon, Michel, vous fumez combien de pétards par jour, vous, mon cher Michel?
Moi, je suis un grand-père de 73 ans. Ouais. J'ai jamais touché à la drogue. Et ma question, justement, c'était de savoir quelles étaient les répercussions sur le corps humain. Sans doute que c'est aussi une question de quantité, comme l'alcool. Et je faisais la comparaison justement avec l'alcool. Est-ce qu'il y a vraiment des sur le corps humain quelque chose qui fait que c'est très nuisible, quoi. Voilà.
Et vous n'avez pas autour de vous, c'est anonyme, vous pouvez tout dire à la radio, vous n'avez pas d'enfants ou de petits-enfants à propos desquels vous savez qu'ils fument des pétards, par exemple?
J'ai 3 fils que j'ai élevés d'ailleurs, et puis j'ai des petits enfants, mais à ma connaissance, personne ne parle de ça dans la famille. Mais bon.
Ouais, d'accord. Est-ce que vous pensez, ça m'intéresse parce que vous faites partie des gens qui sont pas exposés finalement. Est-ce que vous pensez que les effets dévastateurs du hashish par exemple, même si ce ne sont pas les mêmes que ceux de l'alcool, sont philosophiquement aussi condamnables que ceux de l'alcool? Parce que moi je vois souvent des gens qui disent non mais Eric, l'alcool c'est pas la même chose. J'ai envie de dire certains égards si, hein.
Je suis d'accord avec vous. C'est un peu le sens de ma question. C'est quel est sur le corps humain le risque qu'on encourt à fumer des pétards.
Mathis, qui m'a l'air
effectivement l'alcool. On comprend bien que ça représente quand même un marché énorme en France et ailleurs d'ailleurs. Et c'est peut-être pour ça que c'est pas interdit. Ouais. Mais moi, ma vraie question, c'est sur le corps humain, est-ce que vraiment ça fait des dégâts ou pas ?
Mathis.
Il faut comprendre que ce sont deux substances psychoactives. C'est-à-dire que c'est deux substances qui vont créer de l'euphorie sur le corps humain, qui vont changer votre comportement, etc. En revanche, il y a beaucoup plus de problèmes de santé avec l'alcool qu'avec le cannabis. Vous avez beaucoup plus de cancer du foie, beaucoup plus de pancréatite, beaucoup plus de troubles respiratoires. Pourtant, le cannabis, on le fume. Donc pour le coup, le cannabis... Vive le cannabis à un certain âge. Ce que je disais au début, c'est que avant 25 ans, c'est pas bon de fumer du cannabis parce que votre cerveau n'est pas encore totalement formé.
Mathis,
en revanche, vous avez énormément de bienfaits avec la plante de cannabis que l'alcool ne procure pas.
Il y a des gens qui nous écoutent là. Il y a des gens qui nous entendent. Michel, Mathis, il y a des gens qui nous écoutent là, qui sont à côté dans leur voiture ou qui écoutent RTL à la maison. Et qui se disent, moi, je bois deux verres de vin par jour, ou bien deux, trois verres le week-end, pas plus, ou un petit pastis de temps en temps, et je maîtrise ma consommation, je n'ai pas été ivre depuis des années, donc je considère que c'est pas si mal que ça. Est-ce que il y a des fumeurs de cannabis qui sont sur deux, trois pétards par semaine, ou un ou deux, et puis qui ne sont pas tentés d'aller plus loin ? Mathis.
Alors oui, tout à fait. Comme vous l'avez dit, c'est juste la dose qui importe. Si derrière vous avez une éducation, et moi c'est sur ça que j'ai envie d'insister parce que tout le reste on s'en fiche un peu, mais concrètement, si vous mettez tout l'argent que vous utilisez dans la répression du cannabis plutôt dans l'éducation, là vous allez savoir comment consommer votre drogue entre guillemets. Pour le coup, si vous faites des bons mélanges THC, CBD, des bons ratios, on appelle ça du cannabis médical, vous allez pouvoir bien plus consommer de bonne manière plutôt que fumer des trucs qui sont très hauts en THC et donc dévastateurs pour la santé et pour le cerveau. Donc c'est juste une question de ça. Consommer du vin une fois par jour, c'est bon pour la santé, vous dormez bien, vous n'avez pas trop de problèmes, etc. Le cannabis, c'est aussi pareil. Si vous fumez énormément de cannabis, c'est comme tout, il faut savoir gérer.
Bien, compris, Mathis, le message. Bruno est avec nous, il a fait le 32-10 également. Mon cher Bruno, je vous salue. Qui est Bruno ?
Bonjour. Alors, Bruno est un papa de... Enfin, était un papa de 60... J'ai 61 ans. J'ai perdu mon fils il y a 2 ans. Il avait 39 ans. Il a commencé au chichon et après, ça a dévié sur l'héroïne, la cocaïne, enfin, toutes ces merdes. Je suis contre ça, contre la légalisation. Excusez-moi, je suis ému, mais je pense que les gens ne se rendent pas compte que quand on vit avec une personne et qu'on n'arrive pas à lutter contre ça, on voit son enfant se détruire et on est... moi, j'ai essayé d'en parler, d'essayer de trouver des gens pour m'aider à ça. Et j'étais désemparé. Et mon fils, il est décédé chez moi. Et j'ai dû lui faire le massage cardiaque. Et je n'ai pas réussi à le ramener à la vie. Et quand on ne vit pas ça, c'est très facile de dire c'est pas grave. Si c'est légal, on saura ce que les gens... C'est pas vrai, c'est de la merde, vraiment. Excusez-moi du terme, mais je suis vraiment contre ça.
Votre fils n'est pas décédé d'avoir fumé un pétard ou du cannabis, mais vous pensez que c'est ça qu'il a mis sur la voie ?
Il est décédé, malheureusement, vu qu'il s'était remis juste au chichon et il avait arrêté les drogues dures. Donc il abusait de l'alcool et il est mort de son vomi. Il n'a pas réussi à vomir et il est mort étouffé. Et je vous assure, monsieur, quand vous êtes face à ça, j'ai essayé d'aider mon fils, mais la vente est tellement facile et je trouve ça honteux.
Oui, la vente est tellement facile, en trouver, c'est tellement facile. Bruno, restez avec nous, père de 61 ans et qui a qui a fait le massage cardiaque à son fils de 39 ans et qui n'est pas réussi à le ramener. J'aimerais savoir ce que Thomas, qui était avec nous, qui a commencé l'émission avec nous, en pense. Tiens, je le prendrai tout à l'heure en face à face avec Bruno. À tout de suite.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole
avec Éric Brunet sur RTL. Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole
avec Éric Brunet sur RTL.
Faut-il légaliser le cannabis en France comme c'est le cas depuis ce matin en Allemagne? On vient d'avoir le témoignage fou de Bruno qui est toujours avec nous. Hein. Oui. Papa de 61 ans qui a vu son fils partir chez lui à l'âge de 39 ans, qui prenait beaucoup de substances et qui en a pris trop et il n'a pas pu le ramener. On a commencé l'émission avec Thomas de Lyon qui lui en a pris aussi des substances, cannabis, cocaïne. Et qui s'est arrêté. Ça fait longtemps que vous vous êtes arrêté, d'ailleurs, Thomas ?
J'ai fait une cure, en fait, en 2019, juste avant la naissance de mon fils. J'ai été clean pendant pratiquement 6 ans et j'ai refait une rechute l'an dernier. Et j'ai arrêté, là, à nouveau. Là, ça fait 76 jours, exactement, Eric.
C'est quoi une rechute ? C'est juste en reprendre ou c'est en reprendre et tomber bas ?
C'est exactement ça. C'est en reprendre et tomber très bas, voire dans des consommations encore plus importantes qu'avant.
Et dans ces cas-là, on travaille plus, on n'a plus de boulot.
Alors en fait, moi, là où j'ai fait une rechute, c'est qu'en fait, j'ai perdu mon emploi. J'ai dû vivre un événement assez traumatique. Un jeune homme de 22 ans s'est suicidé dans la résidence de mes parents et je suis arrivé quelques secondes après qu'il ait sauté, donc j'ai dû tenter de le réanimer, de faire un massage cardiaque, et j'ai fait un choc post-traumatique, et je suis retombé dans mes vieux démons, dans les vieux schémas, plutôt que d'aller en parler avec un psychologue, je me suis remis à consommer, derrière une séparation aussi, donc j'ai vraiment sombré, c'était le trou noir, et j'ai trouvé le réconfort, du faux réconfort dans la cocaïne.
D'accord.
Très mauvais réflexe. Très mauvais réflexe et je suis entièrement d'accord avec Bruno, ce qu'il raconte c'est terrible, je suis navré et mon père serait entièrement d'accord, mes parents étaient désemparés, impuissants face à ça, de voir son enfant se détruire, pour l'entourage c'est très compliqué, il faut être tout de suite encadré par des structures de soins, mais il manque du personnel. Mais je voudrais quand même rebondir sur quelque chose, Eric, moi qui ai fait des cures, qui ai fait de l'hôpital de jour avec des ateliers pour gérer sa consommation, pour faire de l'art thérapie. Plus dans un groupe de 10 personnes, 8 personnes sur 10, on était deux dans la drogue. La plupart, c'était l'alcool. L'alcool, c'est terrible. L'alcool, c'est la seule drogue, si vous vous sevrez tout seul, vous pouvez en mourir. Vous faites une crise de délirium et sur les autres drogues, ça va être très dur aussi. Hein, les jours qui suivent, c'est très violent. Le manque, vous êtes très agressif, la fatigue, le corps qui relâche. Mais voilà, donc c'est pour ça quand même que je suis quand même contre...
Il y a des tempéraments addictifs, c'est-à-dire qu'il y a il y a des gens qui sont pathologiquement addicts, que ce soit l'alcool, que ce soit la drogue, que ce soit le cannabis, que ce soit... Il y a des profils...
Je suis d'accord, ça c'est ce que me dit mon addictologue et ce qu'il a essayé d'expliquer à mon père. Mon père lui disait, moi j'ai décidé d'arrêter de fumer du jour au lendemain. Il lui a expliqué, même en prenant juste le cas de deux fumeurs qui commencent au même âge, on fume un an, une personne va le réussir un an après à arrêter, celui qui fume la même quantité un an après, lui va être complètement accroché à ce produit-là. C'est vraiment la roulette russe. Hein.
Bruno,
très addict à l'alcool.
Vous entendez Thomas, lui, il est à peu près, je ne connais pas votre âge, Thomas, vous
êtes 38 ans.
Toi, voilà, il est de la génération de votre fils quand il est parti.
Je le félicite d'avoir cette force-là parce que si j'avais pu donner ma vie pour que mon fils reste en vie, j'aurais vraiment pas hésité, mais voilà, il n'avait pas.
Il en parlait, votre fils, de son désir d'arrêter ou pas ?
Mon fils est parti en 2022, en 2021. Il avait fait une cure de désintoxication pendant 3 mois et je redécouvrais mon fils posément, agréablement. Et j'étais optimiste en me disant c'est bon, il va s'en sortir. Et il n'a pas tenu longtemps, il a tenu un mois. Et il a rechuté
Et ça a été encore plus dur.
Et Bruno, moi je rends hommage au travail de père que vous avez essayé de faire. Et oui. surtout, je songe à une chose, c'est votre calvaire. Les nuits, les soirées, les journées oui. épouvantables, les angoisses, les je rentre à la maison et pourvu qu'il n'ait pas rechuté pendant mon absence et ces heures d'angoisse.
Oui. Mais voilà, que les laisser partir. L'an dernier, j'ai réuni 120 amis et je l'ai dit au revoir. Et c'est dur d'accepter, en fait, de se dire, bon, il est parti avec cette merde-là, mais j'ai su, après le jour de l'enterrement, que les gens qui lui avaient vendu la drogue étaient présents.
Il était là, oui.
Et s'ils m'entendent, vraiment, moi, j'ai pas peur et ils peuvent venir me voir, je leur dirai vraiment ma façon de penser, parce que c'est une horreur.
Ils ne viendront, viendront pas parce qu'ils ont honte.
Oui.
Merci Bruno.
Donc, voilà, je me permets, si j'ai un message à laisser passer, c'est dire à tous ces jeunes, si vous êtes en détresse, si vous avez du mal à vivre, il faut en parler à ses parents et voir, il y a toujours des solutions. C'est pas cette solution-là.
Merci beaucoup, beaucoup d'appels au 3210 de personnes qui ont eu des proches qui sont partis à cause de la drogue et qui disent que ça a commencé par un peu de cannabis. Jacques est de ceux-là, oui. Il sera avec nous dans un instant. Bonjour Jacques.
Bonjour.
À tout de suite Jacques.
Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL.
Éric Brunet. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole
avec Éric Brunet sur RTL.
Bonjour, dites-moi, pour quelles raisons, j'aimerais savoir, les jeunes et les moins jeunes s'adonnent à la drogue? Est-ce pour copier, et c'est très malvenu, les camarades au collège ou au lycée? Est-ce qu'il y a un mal-être, ce que je crois bien plus tôt, un mal-être? Qu'est-ce qui se passe qu'ils vont vers ces paradis artificiels?
Voilà, il vient de nous laisser ce message à l'instant, ce monsieur. François, c'est ça, François, il vient... Oui, c'est une vraie question. Jacques est avec nous. Jacques, qui est Jacques? Alors, vous êtes où, mon cher Jacques?
Moi, je suis à Alençon.
Voilà, vous êtes à Alençon, très bien. Et pourquoi appelez-vous le 3210?
Moi, j'appelle parce que mon petit frère, qui avait 47 ans, il est mort pas forcément de la drogue, mais il est mort de l'alcool. Mais avant, il s'est drogué. Et ça a démarré par un pétard.
Oui.
Alors, les copains, tout ça. Et puis le jour, moi je pense que le jour où il a pris la seringue, c'est le jour où il était dans les nuages avec les pétards. Et donc, moi je pense que c'est une erreur. Mais je pense aussi qu'on est le 1er avril et puis l'Allemagne n'a certainement pas légalisé. Ça, déjà.
Ah si, mais... si, parce que vous croyez que je vous fais un 1er avril sur un sujet aussi grave.
Oui, mais c'est pas grave, mais il faut en parler.
Non, Jacques, non, alors là, je vous demande de me croire quand même, j'engage ma responsabilité. Je vous assure, et sur un sujet aussi grave, j'aime bien les 1er avril, mais sur un sujet aussi grave, je vous assure que vous imaginez, j'avais Bruno un instant qui est toujours avec nous, qui a perdu son fils.
Bah, moi,
je vais pas déshonorer RTL en faisant des blagounettes là-dessus, mon Jacques. Non, croyez-moi.
Et on a un ami qui vient de se faire tuer il y a 2 ans, là. Oui. Il revenait du travail en vélo. Le gars avait fumé le pétard. Il avait bu un coup. Et donc, résultat des courses, ben, il nous l'a tué. Il est monté dessus. Il s'en est même pas aperçu, le gars. Non, mais je trouve que c'est une erreur. Hein. Et on va... tous les jeunes là qu'on voit, là, qui sont... déjà, ils sont dépendants du téléphone et en plus de la drogue. Alors, je vous dis pas ce que ça va faire dans les années à venir.
Le cas de votre frère, Jacques, il convoque la question de l'addiction. Parce que vous me dites que votre frère...
il a démarré avec le cannabis.
Cannabis. Après, vous m'avez parlé de seringue. Après, vous me dites qu'il est décédé avec l'alcool.
C'est pas l'alcool, il a fait une crise cardiaque due à la drogue et à l'alcool.
Due à la drogue et à l'alcool.
Parce que quand les gens, ils arrêtent de... ils arrêtent de se droguer. Mon frère, je pense qu'il avait essayé. Mmh. Et donc, il compense avec l'alcool.
Je voudrais reprendre Mathis qui était avec nous depuis le début de l'émission. On avait Thomas le tout premier. Et puis après, on avait Mathis, vous savez, qui vend du CBD, qui est d'une substance dérivée du cannabis, mais qui est légale en France, qui peut être le fameux CBD récréatif. Ouais, oui, bon, bah, le CBD médical, je crois. Enfin, non, je ne sais pas, Mathis, d'ailleurs, je ne suis pas très expert. Mais vous êtes globalement pour le principe de la légalisation, et vous voyez les messages qu'on reçoit, les témoignages à l'instant, à l'instant de Jacques, juste avant de Bruno, ça met une claque quand même, ça met une claque, non Bruno?
Ça met une grosse claque, j'en ai des frissons et je suis vraiment avec toutes les personnes qui vivent des histoires horribles comme ça. Mais pour le coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces personnes-là qui consomment sont principalement dans un mal-être profond. Et donc, le problème n'est pas la consommation du cannabis ou de l'alcool ou autre, mais vraiment ce mal-être qu'il faut traiter. Pour le coup, si vous regardez un petit peu les consommateurs de cannabis, il y en a très peu qui consomment d'autres drogues. Évidemment, c'est une porte d'entrée à plusieurs drogues, etc. Mais en termes de statistiques, c'est moindre. La personne qui consomme du cannabis, en général, reste au cannabis et ne passe pas à autre chose. Il y a quelques cas comme ça, et c'est horrible d'entendre des histoires comme ça, et vraiment, je suis de tout cœur avec vous. Mais ce qu'il faut comprendre vraiment, c'est que la drogue, c'est un échappatoire à un mal-être profond. Mmh. La drogue, ça va créer de la dopamine, de la sérotonine, et donc une sensation de bien-être. Les personnes qui se droguent, elles ont besoin d'un accompagnement. Et c'est justement pour ça que pour moi, il faut légaliser. Parce que si on utilise tout l'argent de la répression vers la sensibilisation, vers l'éducation justement, on pourra proposer des solutions.
Alors Marie-Josée est au 32-10, beaucoup d'appels sur ce sujet. Je rappelle, c'est pas un 1er avril, hein, désolé, mais pour ceux qui le pensent, le 1er avril, aujourd'hui, l'Allemagne a pris la décision de légaliser le cannabis. Marie-Josée est avec nous. Bonjour, Marie-Josée.
Bonjour, monsieur.
Qui êtes-vous, Marie-Josée? Pourquoi appelez-vous le 32-10?
Alors, parce que maintenant, et maintenant j'en parle encore, vous voyez, en ayant la voix vraiment pleine de sanglots, on a vécu un enfer, mon mari et moi, par rapport à notre fille qui a commencé à prendre du cannabis dans les années 1980. Donc elle était toute jeune, c'était une ado. Et après, ça a continué dans les drogues dures. Et après, bon, elle a été vraiment, je veux dire, maltraitée par la famille. Je n'ai pas du tout été aidée. Au contraire, on me l'a enfanté. Donc je me suis éloignée de ma famille. Et avec mon mari, voilà, on a décidé de ne pas la laisser tomber et on s'est battu jusqu'au bout. Après la drogue, c'est-à-dire elle a quitté la maison avec son petit copain et son petit copain était dedans aussi. Donc je croyais que ça allait mieux à ce moment-là. Mais ils ont continué donc dans un autre département. Ils sont partis dans l'Ain. Et là, ça a continué en fait, mais bon.
Mais que faisait-il? Que faisait-il? Parce que ils étaient en situation de conflit avec vous, très bien, ou avec la famille. Mais que faisait-il? Ils fumaient un joint de temps en temps, un peu de cannabis de temps en temps, ou ils étaient vraiment extrêmement en situation d'addiction profonde à des drogues, à des consommations plus régulières, parce que. Quand je vous écoute, je me dis qu'il y a effectivement le cannabis, mais il y a aussi un conflit qui n'est peut-être pas que sur le cannabis.
Non, parce que ça a commencé par le cannabis, et puis au fur et à mesure, il y a eu les drogues dures, en fait. Donc, aller même jusqu'en Hollande pour aller en chercher. Donc, après, ils se sont mis en ménage, et ils sont partis des Ardennes. Et donc après, ben nous, on l'a pas vraiment perdu de vue, mais on n'était pas vraiment au courant de ce qu'ils faisaient dans l'Ain. Ils étaient partis dans l'Ain.
Comment
ils ont travaillé tous les deux, ouais. Mais il y a eu toujours cette consommation.
Vous m'avez dit années 80 et votre fille, maintenant, elle va bien?
Alors maintenant, ma fille, donc après la drogue. Il y a eu son petit compagnon qui l'a laissé tomber. Il y a eu un enchaînement, en fait. Et après, son enfant lui a été enlevé. Elle est tombée dans l'alcool. Alors là, l'alcool, je peux vous dire que l'alcool, c'est le pire de tout. Le pire de tout. Mmh. Et donc, plusieurs fois, elle a tenté de s'en sortir. On l'a repris à la maison. Elle s'est fait soigner dans des centres et tout. Mais maintenant, à l'heure actuelle, et j'espère que ça durera, parce qu'on a toujours une épée de Damoclès au-dessus de la tête, pour l'instant, ça va. Voilà. Donc, mais elle a toujours un lourd traitement contre l'addiction de l'alcool.
Moi, c'est intéressant. On parlait tout à l'heure des comportements addictifs avec la drogue, avec l'alcool. Il y a des comportements, semble-t-il, addictifs. Les addictologues savent ça bien mieux que moi. C'est un très fort témoignage, encore une fois, que celui de Marie-Josée. À tout de suite, on sera avec Jean-Paul, que nous n'avons pas pris encore, qui nous appelle de Loudun.
Contactez-nous gratuitement via l'appli RTL ou au 3210.
50 centimes la minute.
Les auditeurs ont la parole avec Éric Brunet sur RTL.
Plus de 5 millions de Français utilisent du cannabis, enfin fument du cannabis chacun régulièrement, mesdames, messieurs. Et on en a près d'un million, ou un peu moins, 850 000 qui sont des utilisateurs quotidiens. Jean-Paul a fait le 3210, il est à Loudun, je crois. Mon cher Jean-Paul, bonjour. Jean-Paul, bonjour. Allô oui, allô,
vous êtes bonjour. À l'antenne. Oui, bonjour. Oui, je suis à l'antenne. Merci beaucoup.
Vous avez fait le 3210 sur ce sujet. Je rappelle qu'aujourd'hui, l'Allemagne a légalisé la consommation de cannabis. L'Allemagne, grand pays, voisin. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez qu'il faudrait mettre en place la même chose chez nous, en France?
Non, absolument pas. Hein. Moi, je suis tout à fait contre la légalisation du cannabis hein, et des autres drogues, bien sûr. Hein. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand vous êtes en voiture, quand vous conduisez, vous avez le droit de fumer une cigarette, personne ne vous en empêche. Hein. Vous prenez une Marlboro, n'importe quoi, vous fumez une cigarette. Qui vous empêche de fumer une cigarette de cannabis au volant? Personne. Personne. Vous fumez votre pétard tranquillement au volant, 5 minutes après, vous êtes dans les vapes, 10 minutes après, il y a un accident. Vous voyez? Donc, le pourcentage de morts causé par l'alcool au volant est énorme, et il est aussi énorme à cause de la drogue. Et ça on n'y pense pas. Et moi, je peux vous dire que j'ai vécu 16 ans dans les Caraïbes, dans une île française des Caraïbes, hein, une petite île française des Caraïbes. La drogue, c'était à plein. Hein. Et j'ai été témoin d'accidents mortels dus au cannabis, qui est en train de, les gens qui fumaient au volant. Voilà. Où ils ont fumé avant, ils montent dans la voiture, tranquillement, ils partent, ils ont un accident, puis tout le monde.
Oui.
Donc, je pense que c'est une raison quand même assez valable pour ne pas considérer cette justification de la drogue, du cannabis. Voilà. C'est terrible. Moi, je pense qu'il y a assez d'accidents mortels causés par l'alcool ou par les fautes de conduite, accès du SA. Avec ça, on va rajouter les causes d'accidents dues au cannabis. Vous vous rendez compte? Mais c'est complètement aberrant. C'est complètement aberrant.
Vous comparez. Puisque vous parlez de l'alcool au volant, du cannabis au volant, ce sont des choses aussi épouvantables. Pour vous, c'est comparable ou vous avez plus d'excuses, comme ça a souvent été le cas en France, pour l'alcool?
Non, il n'y a aucune excuse. On ne boit pas au volant, on ne fume pas de pétard au volant, c'est tout, ça s'arrête là. Moi, je vous dis, j'ai été victime d'accidents mortels dans l'île où j'habitais, aux Caraïbes, dû à la consommation de drogue. Hein. Et là-bas, je peux vous dire, c'est pas que le cannabis, hein, c'est l'héroïne, c'est la cocaïne, c'est tout ce que vous voulez, le crack et tout ça. Hein, c'est monnaie courante, c'est vendu comme vous achetez du pain chez le boulanger, pareil, hein, aussi facile. Bon, c'est un cas spécial, mais enfin, sur notre territoire, en France, en métropole, c'est la même chose, en plus grand.
Oui.
Voilà, vous voyez, vous avez le droit de fumer une cigarette au volant, c'est pas interdit, ça n'a aucune nuisance, si c'est pour vous personnellement, mais pas pour les autres, quoi. Qui empêche de rouler un pétard et de fumer au volant?
Oui, voilà. Oui, enfin, qui empêche,
et
oui.
Cinq minutes après, ben, vous avez un accident, puis vous tuez quelqu'un.
Oui, mais qui empêche de fumer, de boire une bière, une canette de bière au volant, d'en boire trois?
C'est pareil, oui. Personne ne vous en empêche. Vous prenez votre canette de bière, vous fumez votre cigarette, vous prenez votre pétard, puis vous roulez tranquillement. 5 minutes après, vous commencez à avoir les vapeurs de la drogue. Vous faites une faute de conduite et puis voilà.
Merci Jean-Paul. Je voudrais reprendre Thomas avec qui on a commencé l'émission, qui est clean depuis à peu près 3 mois. Ça fait 3 mois qu'il est au vert, qu'il ne prend plus de cocaïne ni de cannabis.
Bah c'est bien. Vous continuez.
Thomas, vous avez fait des bêtises, j'imagine, à une époque quand vous avez pris le volant dans des situations.
J'ai rarement pris le volant sous stupéfiant, ça m'est arrivé sous alcool jamais, mais sous stupéfiant.
Oui, j'ai raison, clairement.
C'est vrai. Et
forcément, il l'a voulu lui-même.
Sous cocaïne.
Est-ce que vos réflexes étaient les mêmes après, en conduisant?
Sous cocaïne, vous avez plus de réflexes. On a la sensation d'avoir plus de réflexes, mais en plus de risques.
Bien sûr, c'est évident.
On roule beaucoup plus vite.
On a le sentiment de toute puissance.
Je l'ai vécu.
Je voudrais juste, avant que je quitte l'antenne, passer deux messages. Effectivement, je suis plutôt contre, parce que justement, le cannabis, avec le recul maintenant, avec les années, je me rends compte que ça a été vraiment la porte ouverte, moi, à d'autres consommations. L'autre message que je voudrais faire passer, c'est bien sûr, comme disait l'autre auditeur, de pas oser en parler avec ses parents, pousser des centres pour se faire aider. Mais ce qui est peu abordé, c'est qu'on parle toujours des actions répressives. Il faut que ça continue, bien évidemment. Mais aujourd'hui, je suis d'accord avec ce que disait Mathis, c'est important. Il faut surtout investir massivement dans la prévention. Moi, quand j'étais jeune, on m'a parlé énormément du sida quand j'étais au collège dans les années 90, mais on ne parlait pas de drogue. Et aujourd'hui, vous voyez, on ne parle plus trop de sida dans les écoles, et aujourd'hui les jeunes ne se protègent plus, mais on ne parle pas de drogue. Et ça, je pense que c'est surtout là-dedans qu'il faut investir, vraiment dès le plus jeune âge, les faire aller voir des gens addicts, leur faire rentrer dans des centres de XAPA, parce qu'on voit vraiment les ravages que ça fait. Vraiment, moi, j'ai vécu des scènes, j'ai vu des gens en manque, enfin, c'est terrible. Et ça ferait, même si ça sauve un jeune dans une classe, voilà.
Excusez-moi, c'est très bien ce que dit monsieur là, c'est très très bien. Mais si d'un autre côté, bon, d'un côté on va soigner, c'est d'apporter un traitement curatif à des gens qui sont atteints ou qui la prévention. Et si d'un autre côté on autorise, c'est complètement aberrant.
Mais non, mais voilà. C'est surtout qu'il faut renforcer aussi le soin de la santé mentale en France. C'est lié au mal-être. Et le dernier message aussi que je voulais passer. C'était important pour moi, c'était aussi, voilà, j'entends les parents qui parlent, je voulais aussi vraiment remercier mes parents qui m'écoutent aujourd'hui pour vraiment leur soutien, et parce que c'est très difficile d'avoir un fils addict, un membre de sa famille, d'être toujours stressé, angoissé de la rechute, des comportements que l'on a. Donc voilà, je voulais prendre aussi la parole là-dessus, les remercier tous les deux de m'avoir soutenu. Dans cette épreuve-là.
Merci à vous, Thomas, d'avoir été notre fil rouge aujourd'hui. C'était pas prévu, mais votre témoignage est très fort. Hein. Cocaïne, cannabis, des années d'addiction, et vous êtes clean, comme on dit, depuis des mois, et c'est formidable. Vous êtes au vert depuis des mois. Merci à vous, Thomas. Merci à Mathis également, qui nous a beaucoup nourri avec un langage assez expert sur ce que c'est que le cannabis. Merci à Jean-Paul, merci à Marie-Josée, merci à Bruno, et aux histoires très tristes que j'ai entendues également. Et je salue l'entrée dans ce studio de quelqu'un que vous connaissez bien, Jean-Alphonse Richard. Bonjour Jean-Alphonse.
Bonjour Eric.
Avec une émission spéciale aujourd'hui, liée à l'actualité. Hein.
Exactement, on a changé notre programmation, mais effectivement l'affaire est importante, c'est l'affaire du petit Émile Soleil. Soleil, c'est son nom, on ne le donnait pas ce nom parce que c'est un mineur, et jusqu'à présent ce nom, il était sous la forme d'une simple initiale. C'est un très beau nom pour cette fin tragique et si sombre, avec ce crâne découvert, une enquête désormais qui repart sur de nouvelles bases et de nouvelles questions. Émile, 2 ans et demi, est-il parti tout seul dans la montagne? Pourquoi ne l'a-t-on pas trouvé avant? Et puis de quoi il est mort, ce petit garçon? Ça fait quand même beaucoup de questions. Avec cet avantage, c'est que désormais, il y a un crâne qui va parler, sans doute. Les anthropologues, les légistes sont sur l'affaire, et à l'heure où nous parlons, eh bien, leur verdict, leur rapport va être déterminant pour la suite.
Le corps d'Émile n'a pas été retrouvé dans son entièreté. Hein,
non, on a le crâne, un début d'ossement, on n'a toujours pas les habits du petit garçon, sauf si ces informations sont tenues confidentielles, ce qui est possible aussi. Mais pour l'instant, on en est là. Mais on a une certitude, Émile est mort, c'est la seule certitude dans ce dossier. Et on va faire le tour avec nos experts, nos spécialistes, pour savoir où va aller l'enquête. Et c'est une enquête qui, maintenant, va s'accélérer très certainement. Donc, c'est à 14h30, l'heure du crime, le petit Émile, à tout à l'heure.
À tout à l'heure, on sera là, bien évidemment, pour ces nouveaux éléments et les questions qu'il pose. Et dans un instant, on va parler, mesdames, messieurs, hein, franchement, Bercy exagère, je sais pas. Mais Bercy, en tout cas, traque vos abris de jardin. Ils utilisent des images satellites. Qu'en pensez-vous? Le saviez-vous? Il faut les déclarer. Si vous avez un abri de jardin, un cabanon qui fait plus de 5 mètres carrés, il faut le déclarer comme une piscine. Vous allez être taxé dessus. Qu'en pensez-vous? C'est vous, 3210, à tout de suite.
Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr. RTL.
RTL, il est très exactement 14h. Le rappel des titres tout de suite avec Victor Darcas. Victor, bonjour. À la une de l'actualité, une centaine de gendarmes, une centaine d'experts cynophiles ont été déployés dans le hameau du Haut-Vernay.
Une partie des ossements du petit Émile ont été retrouvés samedi par une joggeuse. Le village du Haut-Vernay est actuellement bouclé pour permettre des fouilles plus approfondies pour protéger la zone des promeneurs.
Et puis, au sujet des inondations, on change d'endroit, on va plutôt dans l'Indre-et-Loire où l'alerte rouge aux crues se poursuit ce lundi. La Vienne atteint son pic de crue.
Près de 400 personnes ont dû être évacuées ces dernières heures. 12 départements toujours placés en alerte orange. Un kayakiste est toujours recherché par les secours en Haute-Vienne.
Et puis ce 1er avril marque plusieurs changements, comme notamment la fin de la vignette verte sur les pare-brises.
Désormais, en cas de contrôle, les forces de l'ordre consulteront le fichier des véhicules assurés avec la plaque d'immatriculation. 60 millions d'euros seront ainsi économisés. Le 1er avril marque aussi la fin de la trêve hivernale et puis une revalorisation des prestations sociales, le RSA, la prime d'activité, les allocations familiales et aux adultes handicapés progressent de 4,6% en raison de l'inflation.
Un petit coup d'œil sur la météo, Victor.
Au sud d'une ligne La Rochelle-Genève, le ciel deviendra très ensoleillé et sec. Au nord de cette limite, le temps sera encore très instable avec des nuages, éclaircies et averses, plus fréquentes en cours d'après-midi. Le vent du sud atteindra 100 km/h sur le relief pyrénéen et le vent du sud-ouest soufflera jusqu'à 70 km/h sur le littoral de la Manche. Les températures le matin, 5 à 9 degrés en général. L'après-midi, 13 à 15 degrés dans la moitié nord, 15 à 19 dans la moitié sud, 22 à Bastia.
Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL.
Éric Brunet.
J'avais des choses à vous dire. Ah oui, vous savez, chaque semaine, nous recevons une tête de liste pour les élections européennes qui se déroulent au mois de juin. Ça, vous le savez, on en a reçu deux déjà. Jean Lassalle, Raphaël Glucksmann du Parti Socialiste. Et demain, nous recevons Marion Maréchal, mesdames, messieurs. Demain, Marion Maréchal, à partir de 13h, dans les auditeurs ont la parole. Et c'est vous qui faites le travail. C'est vous qui lui posez des questions. Vous pouvez déjà laisser vos questions dès à présent pour Marion Maréchal sur le répondeur au 3210. Vous pouvez vous inscrire également en appelant tout de suite 3210 hein, auprès du standard. Vous savez que Marion Maréchal, elle sera tête de liste du parti Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. Donc toutes les questions que vous voulez lui poser, un seul numéro, le 3210 dès à présent, mesdames, messieurs. Tout de suite, nous allons parler de la taxe abri de jardin. La taxe abri de jardin, c'est quand même un sacré truc puisque Bercy a décidé de traquer vos abris de jardin s'ils font plus de 5 mètres carrés. Voilà, il faut les déclarer comme une piscine et payer des impôts et des taxes dessus. Mon cher Thierry, vous avez fait le 3210. Bonjour.
Allô ?
Oui, vous êtes là, mon Thierry. Vous êtes avec moi sur RTL.
Oui, bonjour, bonjour.
Bonjour. Vous avez un abri de jardin chez vous ?
Oui, j'ai un abri de jardin pour y mettre quelques outils de tondeuse.
Voilà. Est-il déclaré, cet abri de jardin ?
Il n'est pas déclaré, d'autant plus que j'ai découvert ça hier dans la presse. Mmh. Donc je vais profiter de mon après-midi pour aller mesurer sa surface.
Ah, c'est intéressant. C'est intéressant. Et vous en pensez quoi de ce principe hein, de Bercy, du ministère d'économie et des finances qui a décidé de taxer les abris de jardin?
Bah, c'est-à-dire comme dans un peu tous les différents sujets, il y a toujours des gens qui respectent et il y a toujours de l'abus. Bon, un abri de jardin de 5-7 mètres carrés, pour moi, ça n'a pas lieu d'être taxé puisque ça rend plutôt service pour mettre des outils et choses comme ça. Mmh. Je trouve que la limite des 5 mètres carrés est plutôt faible. Par contre, oui, il y a des gros abris de jardin qui deviennent souvent une vraie pièce supplémentaire, parfois même qui peuvent être aménagées pour servir à ceux qui utilisent Airbnb et ce genre de choses. Donc là, oui, effectivement, il y a une nécessité de taxation. Mais pour un abri de jardin qui remplit son rôle d'abri de jardin, pour moi, c'est pas nécessaire.
Alors le moyen de calcul, c'est très compliqué à Bercy, c'est la surface taxable que multiplie la valeur forfaitaire, que multiplie le taux communal ou intercommunal, plus la surface taxable que multiplie le taux départemental. Bon, ça fait des trucs. Enfin,
oui, merci beaucoup.
Valeur forfaitaire, ça peut faire 885 euros en dehors de l'Île-de-France et 1003 euros en, en Île-de-France, hein, et appliquer le taux de la commune. Alors, je ne vous ai pas donné de calcul précis, mais enfin, c'est pour vous dire que ce n'est pas 12 euros, quoi. Voilà.
Non, mais voilà, bon, comme vous dites, d'après le calcul que vous avez expliqué, c'est très compliqué de savoir ce qu'on risque de payer. Donc, je pense qu'il y a des, bien évidemment, beaucoup de gens qui vont pas le déclarer. Maintenant, il faudrait qu'on puisse au moins avoir un tableau indicatif. Mais bon, moi, je vais me rapprocher de ma commune pour savoir ce que je dois prévoir éventuellement si je dois le déclarer.
Faites-le. Merci Thierry de votre appel. Nadine a fait le 3210. Bonjour Nadine.
Oui, bonjour à toute l'équipe.
Une petite taxe cabanon, Nadine, ça vous fait plaisir, une bonne petite taxe cabanon?
Écoutez, nous, on avait mis un abri de jardin, un abri de jardin en bois qui faisait à peu près 12 mètres carrés en 2004, dans une petite commune en Bretagne. Et quand on l'a acheté, on nous a dit qu'il fallait le déclarer en mairie. Donc, nous l'avions déclaré en mairie. On ne payait pas de taxes dessus à l'époque, mais la déclaration était déjà obligatoire. Il faut savoir, comme me disait le monsieur précédemment, que dans les régions touristiques, il y en a beaucoup qui en mettent dans leur jardin, et hop, une petite chambre d'hôte non déclarée. C'est très, très, très rapide et vite fait. Et je vous assure que sur les locations, les gens qui louent, il n'y en a pas beaucoup qui déclarent. Oui. Là aussi, bon, voilà. À partir du moment, il y a des règles. À partir du moment où on suit les règles, voilà, on les suit. Mais bon, comme tout bon Français essaie toujours de frauder et de râler, voilà, c'est tout, quoi. C'est un petit peu le problème. Nous, c'était, je me souviens, on avait acheté dans un grand magasin, une grande enseigne de bricolage, et il nous avait dit.
Oui, ça s'achète tout fait, oui.
Voilà, qu'il fallait le déclarer.
Donc vous n'avez jamais payé, mais vous ne l'avez plus aujourd'hui, hein, donc.
Non, on n'a plus cette maison.
Bon.
on a changé de maison.
En tout cas, vous le déclarez depuis, c'est bien
la preuve que. 2004, oui.
Ça fait 20 ans que ça se déclare, ouais.
Voilà, et il avait été déclaré en 2004.
Merci Nadine, merci beaucoup Nadine. Je fais tourner la parole, Jean-Baptiste est avec nous. Bonjour Jean-Baptiste.
Oui, bonjour Monsieur Brunet, bonjour à tous les auditeurs.
Vous avez un cabanon, vous?
Oui, lorsque j'ai acheté la maison, les gens avaient construit un espèce de cabanon en parpaing de 10, pas très solide,
oui.
Où ils entreposaient tous leurs vieux meubles à travers les toiles d'araignée. Et donc moi je l'ai nettoyé pour pouvoir ranger mes affaires. Et il se trouve que c'était déjà marqué dans les actes notariés. Je ne comprends pas que maintenant on nous impose.
Ah bah voilà. Vous allez devoir le déclarer, ça vous fait plaisir ça, j'imagine, Jean-Baptiste.
Ah bah certainement, oui, surtout que j'ai été artisan pendant 17 ans. J'ai trimé pendant 46 ans dans le bâtiment. J'ai une retraite de 1500 euros par mois. Et maintenant on va encore me taxer là-dessus.
Jean-Baptiste,
j'ai entendu les deux personnes qui ont parlé avant moi.
Ouais.
Pour moi, ce sont des moutons parce qu'ils acceptent tout.
Ouais. Jean-Baptiste, restez avec nous. Vous m'intéressez. Je veux vous entendre juste après ça. À tout de suite.
Envoyez-nous vos messages sur l'application RTL ou appelez-nous au 3210.
50 centimes la minute.
Les auditeurs ont la parole avec Éric Brunet sur RTL.
Depuis le 1er janvier 2022, la taxe d'aménagement est à payer à la Direction générale des finances publiques. En gros, une taxe abri de jardin ou une taxe cabanon. Ça fait plus de 5 mètres carrés. Faut déclarer, Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, ça l'énerve beaucoup. Et il dit que ceux qui déclarent sont des moutons, Jean-Baptiste.
Exactement. Déjà, ce gouvernement m'a privé de ma liberté au moment de la Covid. Il fallait avoir un laissez-passer pour sortir dans la rue. Après, on m'a obligé à me faire vacciner. Alors que je ne voulais pas me faire vacciner. Et maintenant, on va me ponctionner les 4 sous qui me restent. Alors là, ça commence à bien faire.
Oui, oui, c'est-à-dire que c'est un vieil abri de jardin qui a toujours été dans la maison.
J'ai mes grands-parents et mes parents qui se sont battus pour la liberté. Ils ont combattu. Moi, depuis que je travaille, je paye pour tous ces gens qui sont en haut lieu. J'ai payé leurs études. Et maintenant, ils me plument. C'est le remerciement qu'ils ont. Que ce soit le président ou les autres. Ça commence à bien faire.
Ouais.
Moi, j'ai 75 ans et j'en ai ras-le-bol de payer, toujours plus, et que les gens accepte tout. Je ne comprends pas, moi, cette France qui se laisse plumer comme ça. Je suis révolté. Moi.
J'entends votre révolte. Vous...
Ah mais, vous savez, je ne dois pas être le seul. Hein. Mais la plupart du temps, les gens acceptent tout, trouvent normal tout. Et le drame chez les Français, c'est qu'ils réclament toujours au gouvernement. Ils ne se posent jamais la question qui paye. Les agriculteurs demandent. Les commerçants, s'ils n'ont pas gagné. Moi, j'étais artisan. J'ai eu un grave accident. Personne ne m'a aidé. Il a fallu que je me débrouille. Hein, il a fallu que j'ai été arrêté pendant 4 mois, dont 3 mois dans un corset. J'ai redémarré à zéro. Dès que j'ai redémarré, on commençait à me plumer sur mes... On me redemandait de payer mes cotisations. On m'a même pas donné le temps de récupérer de l'argent.
Vous savez, Jean-Baptiste,
de la France.
Jean-Baptiste, je rappelle quand même que la France, quand on regarde les pays d'Europe, de l'Union européenne, est le pays qui, toute taxe et tout impôt confondu, est celui qui taxe le plus. Hein. Là, faut pas rêver. Hein. On pourra vous dire toujours le contraire. Il y aura toujours un économiste qui vous dira oui, mais sur tel impôt. Non, mais globalement, il n'y a pas un pays qui taxe plus en Europe que la France. Voilà. Jean-Baptiste, restez avec nous. Thierry nous appelle également au 3210, mon cher Thierry. Bonjour.
Bonjour Eric, bonjour tout le monde.
Vous avez un cabanon, Thierry ?
Ouais.
Ah, c'est vrai, vous en avez un chez vous dans votre jardin ?
Ouais.
Bon,
et ça me fait doucement rire. Donc je suis en train d'imaginer qu'il y a un satellite qui tourne au-dessus de chez moi, qui est en train de prendre les mesures, de voir si mon cabanon, il fait plus ou moins de 5 mètres carrés. Ah. Et alors moi, je me suis renseigné. Donc déjà, la taxe, c'est une fois. Hein. C'est pas toutes les années, c'est une fois à l'installation du cabanon. Et c'est depuis 2012. Donc tout ce qu'il y a avant, pas concerné.
D'accord.
Donc moi, la taxe est de 14 euros. Donc, on est en train de me dire qu'on a un mec à Bercy qui est en train de bosser sur l'ordinateur, de piloter un satellite et qui va aller mesurer un cabanon. Et si jamais j'ai pas payé, il va venir me prendre 14 euros plus les... Non mais, sérieux, on n'est pas sérieux.
Moi, on m'a dit que c'était des montants plus élevés, mais je ne veux pas...
Excusez-moi, je vous ai coupé. Ça dépend de chaque commune et chaque département.
D'accord.
Donc en région parisienne, c'est sûrement plus cher. Mais nous, ici, j'ai regardé, c'est 14 euros.
D'accord.
Donc, quand on parle de que le pays...
Oui, j'ai perdu Thierry, là. Mais lui, Thierry, il est remonté. Moins que Jean-Baptiste, mais il est remonté également. Hein. Kamel est là. Bonjour, mon cher Kamel.
Bonjour, bonjour aux auditeurs.
Bon.
Écoutez... Je ne peux pas m'empêcher de sourire au travers de ce qui vient d'être dit, Jean-Baptiste, etc. Je crois que là, effectivement, je crois qu'on rentre encore dans cette spirale de la psychose, etc. Il faut arrêter d'agacer la population, toutes ces personnes qui se mobilisent et on ne cesse de les agacer. Alors, bien évidemment, je vous dirais que...
C'est la phrase de Georges Pompidou quand il était président. Il faut arrêter d'emmerder les Français. Vous vous souvenez ?
Écoutez, oui, il y a une trivialité là-dedans, mais c'est effectivement ça. Il faut arrêter. Alors, il y a bien évidemment, et ils existent ceux qui abusent, et bien évidemment, ceux-là, il faut les repérer. Mais vraiment, c'est comme les. Aujourd'hui, je crois qu'on pourrait, par exemple, sur les piscines, voilà, où là, il y a une utilisation d'un produit qui est l'eau, etc., etc. On peut peut-être faire des choses à ce sujet, mais venir embêter la population pour des cabanons, etc. Vous voyez, c'est continuer à générer, ce climat d'angoisse perpétuelle dans notre pays.
Non, mais vous imaginez la piscine, ok, le cabanon, l'abri de jardin où on met le râteau, la pelle et la brouette, ok. Demain, le terrain de pétanque, un terrain de pétanque.
Oui, ou la cave, Eric. Ouais. Hein, je ne sais pas comment, vous voyez, la cave, etc., etc. On peut aller très loin, mais il faut arrêter. Je crois qu'il faut que la population puisse souffler, qu'on puisse se retrouver les uns les autres, faire nation, ça exprime quelque chose, mais vraiment là on est dans je ne sais quoi, mais vraiment lorsque j'écoute les intervenants, eh bien ils ont raison d'être agacés, je le suis aussi, je n'ai pas de cabanon, mais c'est vrai qu'il faut arrêter ça, et vous avez raison Eric de donner la parole aux auditeurs pour qu'on puisse exprimer ce ras-le-bol. On a vraiment ras-le-bol aujourd'hui, il faut laisser souffler la population et je crois que c'est la meilleure des choses à faire. Par contre, c'est très important que ceux qui abusent, et comme tout à l'heure un auditeur le disait, des cabanons qui sont ensuite dans les Airbnb, etc., etc., bien évidemment, mais c'est pas la majorité des Français, et je crois qu'il faut être mettre de la mesure là où il faut en mettre.
Je suis d'accord avec vous, mais c'est l'ingénierie fiscale des spécialistes de Bercy, moi, qui m'inquiète. On invente, c'est le concours Lépine des nouvelles taxes, quoi.
Absolument, bon. Absolument. Et vous avez raison de le souligner. Je crois que il y a une exagération, et je crois qu'il faut qu'il y ait ce ras-le-bol qui s'exprime et refaire nation. Quand je dis refaire nation, c'est un sens, vous savez, c'est d'être fier d'habiter ce pays, d'y être, et effectivement d'accepter de payer des impôts, d'accepter un certain nombre de choses, mais user, mais ne pas abuser. Et je crois que c'est les mots forts qu'il faut que l'ensemble de la population exprime, parce qu'il y a un ras-le-bol dans notre société.
Merci, voilà. Kamel. Merci pour ces propos pleins de sagesse, mon cher Kamel. Merci à Jean-Baptiste, exaspéré, et on le comprend, et à Thierry, qui trouve que tout ça est du grand guignol. Merci à tous les trois. Je vous le rappelle quand même, c'est la loi. Depuis le 1er janvier 22, la taxe d'aménagement est à payer. Et donc, ça concerne les abris de jardin, les cabanons de plus de 5 mètres carrés. Cyprien Signy d'RTL, bonsoir, vient d'entrer dans le studio des auditeurs en la parole.
Bonjour à tous.
Bonjour Cyprien.
Quel plaisir de vous retrouver en ce jour férié. Il y a plein de jours fériés pour nous.
Il y a des gens qui font des spéciales, mais genre, on a tout enregistré avant le week-end, vous voyez, qui font des best-of. C'est pas votre genre, j'espère.
Ah bah c'est pas notre genre, et ce soir on sera au cœur de l'actu sur l'affaire Émile avec tous nos envoyés spéciaux sur place. Vous découvrirez aussi comment sont dressés les chiens renifleurs qui aident aux recherches. Leur rôle est essentiel en ce moment au Auvernais. Vous en saurez plus sur leur odorat incroyable. Et puis, ambiance vintage en deuxième partie de soirée. Ça va être un régal. Yes.
Non mais attendez, c'est le dandy de la chanson française.
Il est formidable, Alain Chanfort. Il sera avec nous, il va nous raconter tout son parcours. On va revenir sur les années Clo-Clo, ouais, qu'il a lancé, Claude François, ouais, qui lui débranchait ses sonos parce qu'il marchait trop bien et tout, ça va être formidable.
C'est vrai, j'ai rendez-vous au paradis. Rendez-vous au paradis.
Vous êtes bon.
Et là, Manureva, la famille d'Alain Colas, dont il est question, oui, hein, avait à l'époque entamé une procédure judiciaire contre Alain Chanfort parce qu'il ne voulait pas qu'il chante cette chanson.
Et vous savez qui a écrit la chanson?
Le bateau naufragé, c'est pas Gainsbourg?
Gainsbourg, on va parler de cette collaboration incroyable avec Serge Gainsbourg, parce que Chanfort, il a collaboré avec les plus grands, avec Gainsbourg, avec Clo-Clo, avec Dutronc, ça va être formidable. On va se régaler. Rendez-vous ce soir.
Je vous écouterai. Je n'écouterai pas France Inter ou France Info ou que sais-je, RMC, Europe 1. Je vous écouterai.
Mais comme nos auditeurs, restez là, à ce soir.
Bon, les amis, je me tourne vers Victor car on va aller voir une auditrice du bout du monde. Est-ce qu'on a un indice, mon Victor?
On a un indice sonore dans un premier temps.
Oula, c'est un hymne, ça.
C'est un hymne. Alors, pour vous aider un petit peu, je rajoute l'indice suivant. Un film d'Indiana Jones a été tourné à Petra.
Un Indiana... Oh, je crois que j'ai trouvé. Indiana Jones à Petra. À tout de suite.
Éric Brunet vous donne la parole sur RTL.
Éric Brunet.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Enzo est là-bas, avec son casque sur les oreilles au standard, mon cher Enzo, rebonjour.
Rebonjour Eric.
Qui a gagné le mystère? Alors, de l'auditeur ou l'auditrice du bout du monde?
Même les jours fériés, c'est Claude de Montauban qui a remporté aujourd'hui le guide du routard de la Jordanie, vu qu'on va retrouver Axel tout de suite.
Axel est donc en Jordanie, l'indice c'était Petra, et la musique ça devait être l'hymne, Victor, ça devait être l'hymne.
C'était l'hymne de la Jordanie.
Du royaume de Jordanie. Nous allons donc retrouver Axel.
L'auditeur du bout du monde.
Donc la Jordanie est un royaume du Proche-Orient, ma chère Axel, bonjour.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Il y a combien d'avions pour aller en Jordanie, pour ceux qui n'y ont jamais été, j'en fais partie?
Eh bien, ça dépend si vous prenez un direct ou pas, mais si c'est un direct, environ 4h50, 5h grand maximum.
5h de la France, c'est tout proche. Alors, il paraît que c'est un pays sublime, le désert y est très beau. D'abord, quelle heure est-il là-bas et que voyez-vous si vous mettez la tête à la fenêtre, ma chère Axel?
Alors, là actuellement, il est donc 15h15 passé. On a une heure de décalage avec la France. Et si je passe la tête, je vois les montagnes du désert du Wadi Rum, donc les montagnes orangées et un grand ciel bleu puisqu'il fait beau chez nous actuellement.
Mais qu'est-ce que vous faites dans le désert ?
Eh bien, moi, j'accompagne les voyageurs qui souhaitent découvrir la Jordanie de manière authentique et locale, que ce soit dans toute la Jordanie ou alors dans le désert avec mon conjoint qui est bédouin et donc on vit dans le désert.
Ah, vous avez un conjoint qui est bédouin ?
Tout à fait, c'est ça.
Quel est le travail, quel est le métier d'un bédouin ?
Eh bien, guide touristique, simplement.
Il est touriste, guide touristique, ah ouais, c'est extraordinaire. Et des touristes, il n'en manque pas en Jordanie, parce que c'est un pays, on est au Proche-Orient, c'est un pays pacifique, très calme, et avec surtout des sites hallucinants, et ce site mythique. Moi, j'ai croisé deux, trois personnes, qui étaient allées, et tout le monde me dit, mais Petra, Eric, c'est le plus bel endroit du monde.
C'est vrai que c'est un pays vraiment magnifique avec beaucoup de diversité des paysages parce que évidemment il y a le Petra, le désert du Wadi Rum qui est très couleur orangée, mais vous avez aussi tout le nord qui est verdoyant, la mer Morte, la mer Rouge qui est plutôt dans les tons bleus. C'est un pays qui donne envie, malheureusement depuis quelques mois un petit peu déserté par les touristes, mais j'en profite pour dire que c'est un pays qui est extrêmement calme et pacifique, comme vous l'avez si bien dit. Il y a absolument aucun danger à voyager en Jordanie actuellement. Donc voilà, je fais passer le message parce que ça vaut vraiment le coup de venir.
Victor.
Et si demain on veut faire un voyage en Jordanie, il faut prévoir combien de temps pour voilà, prendre son temps, voir de belles choses, être dépaysé ?
7 jours, c'est le minimum syndical. Si vous souhaitez voir les incontournables, même si ça vous demande une organisation et peut-être un peu de course, 10 jours, c'est l'idéal. Comme ça, vous avez vraiment le temps de vous installer à certains endroits et de prendre le tour, notamment à Petra, qui sont des lieux vraiment mystiques, quoi.
Alors, de quel âge avez-vous ? Vous avez une voix très jeune, vous, Axel.
Parce que je suis très jeune, j'ai 27 ans.
Et vous êtes de quel coin de France ?
Alors moi, je suis originaire de Vendée.
De Vendée. Et pourquoi avez-vous quitté la France ? Parce que c'est quand même, c'est pas un voyage que vous faites, c'est pratiquement une implantation professionnelle en Jordanie.
Complètement. Je me suis expatriée en Jordanie et donc ce choix a été le fruit de longs mois de réflexion parce que je suis tombée amoureuse du pays avant de tomber amoureuse du bédouin, je tiens à le préciser quand même. et donc le pays me procurait quelque chose que je ne retrouvais pas forcément en France et donc j'ai décidé de suivre mon instinct, encouragée par ma famille et mes amis et donc j'ai pris la liberté de venir m'installer ici, que ce soit personnellement ou professionnellement parlant.
Qu'est-ce qui vous manquera le plus si vous rentrez un jour en France ?
Les falafels, sans hésitation. Parce qu'on n'en trouve pas des aussi bonnes en France.
Ah, les falafels, c'est petites, c'est que le sandwich jordanien qu'on mange à midi, quoi, en gros, avec falafel boulette.
Alors, les falafels, c'est des boulettes de pois chiches avec plein d'épices à l'intérieur. Vous pouvez les manger comme ça, avec du houmous ou dans des sandwichs. Ça dépend de ce que vous préférez. En tout cas, nous ici, on les mange au petit déjeuner.
Il y a un truc qui doit être dingue, c'est le désert. Le désert, ça rend fou, le désert, Axel.
Oui, le désert, vraiment, c'est un désert qui est vraiment très atypique parce que quand on pense désert, on pense dunes de sable et en fait, ce désert-là, c'est pas que des dunes de sable, c'est beaucoup de montagnes, il y a énormément de végétation aussi. Donc, c'est un désert qui est vraiment atypique et surtout, une fois que vous rentrez dans le désert, vous n'avez plus de connexion. Donc, vous êtes en déconnexion totale avec vie, avec les réseaux sociaux, tout ça. Et donc, c'est une expérience immersive, totale.
Merci, Axel, 27 ans. C'est formidable. Organisatrice de voyages sur mesure pour découvrir la Jordanie, accompagnatrice francophone dans ce désert, avec son conjoint bédouin, si j'ai bien compris, dans ce désert de Wadi Rum. Voilà encore une personne qui s'est construite une vie sur mesure, une auditrice du bout du monde qui écoute RTL et que nous aimons vous faire rencontrer. Merci à vous, Axel. Et je dois me tourner à l'instant vers Jean-Alphonse Richard qui rentre dans le studio d'RTL, car vous allez nous faire aujourd'hui, Jean-Alphonse, une émission spéciale.
Oui, une émission spéciale. On a changé nos programmes pour l'affaire du petit Émile, évidemment. Une nouvelle enquête et de nouvelles questions. C'est tout de suite dans l'heure du crime.
Et les tout derniers déroulements. Merci à vous, Jean-Alphonse Richard. Merci, mon Victor. Merci, Enzo. Je crois que demain, Lisa Marie nous rejoint. Belle après-midi sur RTL.